Voix enchantées.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantées, l'émission qui dresse le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques pendant une quinzaine de minutes. Au programme, un choix d'artistes, de musique, d'œuvres, mais aussi un partage de textes écrits par l'invité et une bribe de phrases entendues dans son entourage. Aujourd'hui, on est avec Mathias pour un épisode hors les murs depuis le Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Mathias.
Bonjour Louisa.
Est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que tu fais dans la vie, tes passions, ton travail ?
Écoute, alors moi j'ai 28 ans et dans la vie, d'un point de vue professionnel, je suis directeur adjoint d'un hypermarché pour une grande enseigne de grande distribution. Et pour un côté plus personnel, on va dire que je suis un passionné de sport, j'adore le sport, j'ai fait pas mal de rugby et puis là aujourd'hui je fais de la course à pied. Et puis j'aime bien lire des livres de temps en temps ou alors sortir avec mes amis et puis avec ma copine bien sûr.
Ok, super. On va commencer tout de suite par le choix d'artiste. Alors, comme chaque mois, l'émission, elle s'ouvre par le choix d'un artiste qui, toi, te touche particulièrement. Ça peut vraiment être dans n'importe quelle discipline, n'importe quel art. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ?
Alors, moi, en fait, j'ai choisi de parler de Giacometti. C'est un sculpteur suisse-italien qui a vécu surtout dans la première partie du XXe siècle. Et bon, alors, c'est pas quelqu'un que je connais vraiment particulièrement, mais c'est quelqu'un qui fait des sculptures qui me touchent, on va dire, et qui, en fait, ont accompagné un peu toute mon enfance, adolescence, parce qu'en fait, mes parents m'amenaient souvent dans des musées. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait Giacometti, j'aimais l'exposition. Alors que parfois, je m'ennuyais un petit peu dans des musées où j'y trouvais pas mon compte. Donc du coup, j'ai choisi d'en parler là parce qu'en fait, récemment, je suis allé avec ma copine à la Fondation Louis Vuitton voir une exposition de peintre Rothko. Et en fait, il y avait une salle avec des statues de Giacometti et ça m'a remémoré tous ces souvenirs-là. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est beau. Enfin, j'ai aimé ses œuvres et ça m'a fait plaisir de les revoir.
Et est-ce que tu saurais dire pourquoi elles te touchent ? Elles sont comment, en fait, ces œuvres ?
Donc c'est soit des êtres humains assez fin, et en fait il a une technique où on voit un peu comme si on voyait chaque empreinte de doigt qu'il a mis pour qu'il a posé sur la sculpture pour la façonner. Donc en fait on sent que c'est vraiment construit de ses mains, et en fait c'est des hommes qui marchent, et il y a une forme de côté un peu mélancolique, un peu nostalgique, comme s'il marchait à l'infini. Et plus particulièrement, il a fait la même avec un chien. Et en fait le chien, je l'avais vu vraiment enfant dans un musée, une fondation dans le sud de la France. Et depuis toujours, en fait, je me suis rappelé du chien de Giacometti. Alors nous, enfin moi, j'avais toujours eu un chien. Pendant quasiment 15-16 ans, j'ai eu un chien, même plus. Et c'était un peu comme un compagnon de vie. Et puis avec ce chien qui marchait de Giacometti, je me sentais comme accompagné aussi avec mon chien à moi. Donc je sais pas, ça m'a touché, ça m'a marqué. Et puis... ce côté concret en fait de l'œuvre, voilà, pas abstraite, vraiment un homme qui marche, qui est dans ses pensées, qui rêve, etc. Ben c'est ça qui m'a plu.
Tu disais que les personnages, ils sont maigres au fin. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est aussi comme aller jusqu'au la condition humaine, c'est-à-dire on enlève toutes les frioritures, mm-hmm. On est vraiment dans quelque chose de, il reste quelques bouts de chair sur un corps, quoi, presque. Et ça, ouais. Ça fait écho, peut-être à ce que veut faire passer l'artiste de la condition humaine. T'en as parlé.
Et on ne sait même pas s'ils sont habillés ou pas, effectivement. En fait, c'est vraiment l'être humain, c'est vrai, dépollué de tout artifice qui marche vers on ne sait quoi. Mais moi, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il marche dans sa tête, tu vois, qu'il marche dans ses pensées, qu'il n'a pas vraiment de but, mais qu'il est présent sur Terre et qu'il marche, quoi, qu'il est actif.
Et c'est marrant parce qu'il me semble que Giacometti lui-même disait qu'il ne voulait pas faire des sculptures en lien avec le réel, mais plus avec l'imaginaire et donc ce qu'il y a dans sa tête, quoi. Donc peut-être que ça se reflète aussi dans ses sculptures. Merci beaucoup, on passe tout de suite à ton coup de cœur musical. Donc, la deuxième étape de l'émission, c'est en musique. Avec ton coup de cœur musical, Mathias, est-ce que tu peux nous annoncer, avant qu'on l'écoute, le nom de l'artiste et le titre du morceau.
Donc le nom de l'artiste, c'est un featuring entre Tiff, qui est un rappeur algérien, et PLK, que je connais pas plus que ça. Et la chanson s'appelle La Nuit.
Quelques pépins dans ma tête, j'ai trouvé quelques copains dans ma quête. Vodka des mélanges bizarres dans mon cap. J'ai remis toute ma seule force dans la tête. Ouais, si Dieu veut, on ira au top. Si il veut pas, on restera au checks. Tu nous négligeais fort à l'époque. Aujourd'hui, de l'épaule, tu veux faire le check. Mais j'ai pas de mémoire, je me souviens de toi. Tu croyais pas en nous, gros, souviens-toi. Une équipe soudée dans les délits. Moi, déterre, j'ai tout créé de mes 10 doigts. Solitaire, ça me fait ni chaud ni froid. Que tu partes, que tu ne m'applaudisses pas. Une lien s'épaisse pour assurer ma descendance. Une baraque, un jardin, une dépendance. Mais mes freins, ils aimeraient bien desserrer. Je sais même pas pourquoi encore je reste en France. J'ai plus la nuit.
Cette vie ne permet plus de trêve. Dans son blanc, tu ne fais plus de rêve. Je t'ai donné tout ce qui me reste. Pour que je ne rêve
plus la nuit.
Tu mets dans l'allée, tu me connes. J'en ai un humain, je m'en vais près des nuages. Silence, le vécu te parle. Ma belle, j'étais seul. J'ai avalé mon sol. Je les mélange à l'absolu. Comme entre la haine, je baisse foule. Là, je t'affronce pas après. Je bosse mon karaté. On cherche cette solution. Même dans mes rêves, j'aime trop. Je dors plus la nuit. Je rôde, je fume, je vide la bouteille. Je ne veux plus tisser de lien. En ce moment, je suis d'humeur, ça s'occupe. Et peut-être que je t'oublierai demain. Pour l'instant, y'a ce manque à toute heure. Et je sais qu'on n'emporte rien. Je compte pas passer ma vie à looter. J'arrive en France, je vois c'est fermé l'accueil. Le cœur est rempli, mes verres, j'ai la feuille. C'est taf qui parle, et gros. Autrement dit, faut fermer sa gueule. Je l'ai ouvert que devant le mic. Plus de bien devant le mal. Offrir luxe, haut de moi. Hauteur de plafond avant l'au-delà.
Ma belle, j'étais seul. J'ai avalé mon somme. Je les mélange à l'absolu. Comme entre la haine, je baisse foule. Là, je t'affronce pas l'après. Je bosse mon karaté. Cherche cette solution. Même dans mes rêves, elle me pollue.
J'rêve plus la nuit.
Cette vie ne permet plus de trêve. Dans son blog, je ne fais plus de rêve. Je t'ai donné tout ce qui me reste. Donc je ne rêve plus la nuit. Tu mets dans l'allée, tu me connes. J'en ai l'humain, je m'en vais près des nuages. Silence, le vécu te parle.
Je m'en rappelle, j'étais seul. J'ai avalé mon somme. Je les mélange à l'absolu. Comme entre la haine, je baisse le volume. Là, je t'affronce pas après. Je bosse mon karaté. Je cherche cette solution. Même dans mes rêves, elle me pollue.
Alors Mathias, pourquoi ce morceau ?
Écoute, j'ai bien aimé ce morceau qui vient d'un rappeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui m'a tout de suite plu parce qu'il avait fait une vidéo où en fait il jouait en acoustique avec ses amis, avec des percussions, d'Afrique du Nord. Et en fait, le rap avec juste le son des percussions d'Afrique du Nord, etc., ça m'avait vraiment bien marqué. Il arrive à jouer avec le rythme pour que ça monte petit à petit, et c'est entraînant, et voilà, ça m'a plu. Après, j'aime bien la thématique de la nuit, parce que j'aime bien le côté où la nuit, voilà, c'est le seul moment, enfin, pas le seul moment, mais c'est un moment où on peut facilement être en introspection. Et puis, en fait, j'écoute souvent de la musique quand je cours, et le fait que ça monte comme ça sur le refrain, en fait, ça me, même dans la course à pied, ça me galvanise un peu dans le sport et je ressens des choses plus fortes avec la musique que sans musique quand je cours.
Il y a aussi quelque chose d'assez spécial dans ce morceau, c'est que le rythme, il est entraînant et à la fois, le rap de Tiff, il est entraînant aussi, comme si c'était en symbiose. On ne peut plus trop faire la différence entre les percus qui montent comme ça et sa voix grave comme ça, écorchée, qui reprend, qui...
Bah c'est vrai que, par exemple, c'est que récemment que j'ai différencié le texte de l'instrumental. Enfin, avant, je prenais tout ça comme un tout et je connaissais même pas les paroles. Enfin, c'est juste le refrain qui m'avait vraiment entraîné, avec le « Insomnia que je ne fais plus de rêve », etc. Ça fait comme si ça faisait corps et il a une voix qui est quand même assez particulière et assez emblématique, je trouve, qui résonne bien, en fait. Surtout sur des thématiques comme ça, un peu mélancoliques ou... Ouais, tu sens qu'il est un peu seul face à sa feuille, mais qu'il ne sait pas trop quoi écrire, etc. J'ai bien aimé.
Et ce qui est marrant, c'est que ça reprend un peu là ce qu'on disait sur Giacometti, le côté rapport au monde, enfin l'extérieur qui peut être un peu violent ou en tout cas se dépolluer, tu disais ça, se dépolluer ou se dépouiller de ce qui se passe à l'extérieur pour un peu mieux se comprendre à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand je me suis dit, mais de quoi elle parle cette chanson, de quoi ils nous parlent là, PLK et Tiff, en fait, ils parlent de leur état et de leur rapport au monde et de comment ils se sentent à l'intérieur, quoi. Donc c'est un partage d'émotions, c'est une introspection. Bon, bien sûr mélancolique, est-ce que toi, je sais pas, ça fait une sorte d'exutoire, est-ce que toi aussi tu te reconnais dans les paroles, ou est-ce que...
Le rapport au monde et aux autres, il est apaisé que quand notre rapport à l'intérieur, il est apaisé. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce qui conditionne notre rapport aux autres, c'est notre capacité à être bien à l'intérieur, à être structuré, équilibré, serein, etc. Et en fait, pour moi, la quête de cette sérénité intérieure et cette paix intérieure, c'est un moyen en fait, de se sentir bien dans le monde dans lequel on évolue et de faire le bien autour de nous aussi. Parce qu'en fait, si on est déséquilibré sur certains aspects de notre vie intérieure, en fait, pour moi, ça va influencer nos actions qu'on aura envers les autres. Et on pourra éprouver, par exemple, de la jalousie, de la haine, de la rancœur, ou alors surjouer des situations, etc., avec les autres. Tandis que si on est stable, fort à l'intérieur, vraiment ancré dans ce qu'on a de concret et qu'on est apaisé, ça nous permet, en fait, de soigner nos relations avec les autres et de bien se comporter avec les gens.
Après, j'ai envie de répondre à ça, que c'est aussi la quête d'une vie d'être apaisé, qu'on a des moments où on est apaisé, d'autres où on l'est moins. Ça fait pas nous quelqu'un de fort puis de faible, mais c'est une quête comme ça où on essaye d'être...
Oui, c'est clair que ça fluctue. Après, moi, j'essaye de... En fait, avant, je me disais, voilà, là, je suis dans tel état, etc. Et c'est bien, c'est pas bien. Et je me jugeais un petit peu de manière quotidienne, en fait. Je jugeais... comme si j'étais un juge qui donne une sentence sur l'état dans lequel tu es, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, ben en fait, si là, t'es comme ça, c'est parce que peut-être que toi, tu l'as cherché à être comme ça, et que peut-être que pour être bien, t'as besoin de passer par une phase où t'es moins bien. Ou alors, je me dis, peut-être que ce qui t'arrive de manière négative là, ben en fait, c'est quelque chose qui est inévitable pour la construction du futur, et pour te dire, ben voilà, quand je ressens telle ou telle situation... Je ressens ça, mais la prochaine fois, je le ressentirai peut-être pas parce que j'ai appris à lui. Enfin, pour moi, c'est comme un apprentissage. Et en fait, on se construit petit à petit par couche, et enfin, selon ce que je ressens. Et en fait, voilà, cette quête-là, en fait, pour moi, c'est. J'essaye de plus me dire là, ça va pas, là, ça va, mais de me dire bah, cet élément-là qui est négatif à l'heure actuelle, comment est-ce que je peux l'utiliser pour que ça devienne positif? Ou alors, en quoi ça va servir le fait que je sois bien?
Donc t'essayes d'avoir toujours un coup d'avance par rapport à ce que tu ressens?
Je ressens, de toute façon, quand je le ressens, c'est trop tard, je l'ai ressenti, mais en fait, après j'essaye de me dire, voilà, peut-être que c'est pas si grave que ça, c'est pas si négatif que ça, j'essaye d'avoir une vision un petit peu plus optimiste et de pas être trop dur avec moi-même, de pas culpabiliser parce que je ressens telle ou telle émotion, parce qu'en fait je me dis que ça sert un ensemble, un tout qui est en fait qui je suis moi et que par couches successives d'expérience je me construis.
Et est-ce que, du coup, ton rapport à la musique, le fait d'écouter du rap... D'ailleurs, je t'ai pas demandé si t'écoutais beaucoup de chansons de rap ou si c'était vraiment cet artiste-là qui te touche. Mais est-ce que le fait d'en écouter, parce que c'est quand même des poètes, on va dire, urbains, modernes, qui parlent de tout ça, de ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que ça t'aide dans ta quête comme ça de mieux comprendre tes émotions pour avancer?
En fait, je suis mitigé parce qu'il y a des parties du texte que je trouve vraiment belles, constructives, qui peuvent me servir. Et en fait, ça me conforte un peu... Parce qu'on se crée tous un peu un personnage, donc parfois quand eux ils disent des choses, je me dis « Ah ouais, mais moi je ressens comme eux, etc. Et ça fait beau, etc. » Mais après, il y a toute une partie du texte, que, même de cette chanson-là, où, que je trouve pas forcément intéressante ou même belle, tu vois, en fait, je pioche des petites bribes de texte que je trouve sont vraiment bien écrits. Mais après, quand ils parlent, par exemple... Même dans le refrain, je le trouve magnifique le refrain, mais quand il dit je vais me rouler un joint et je vais fumer, enfin ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Mais quand il dit cette vie ne permet plus de trêve, insomniaque, je ne fais plus de rêve, ben, cet enchaînement-là, ça me touche et ça je m'en sers, ouais, peut-être personnellement.
T'es touché de manière fragmentaire par des phrases,
ouais,
qui sont comme des mantras.
Et je m'en sers un peu, ouais.
Merci beaucoup, on passe tout de suite à ton partage de texte. On va rester dans l'intime, peut-être l'introspection, avec cette fois-ci un texte que toi tu as écrit. Est-ce que, avant de nous le lire, tu peux nous dire quand est-ce que tu l'as écrit, si tu écris beaucoup, ton rapport en fait à l'écriture, ce texte-là en particulier, puis la lecture?
Alors moi, j'écris plus beaucoup. J'ai écrit à un moment donné parce que, justement, au lycée, je voulais faire, on faisait un peu de rap, etc. Et je m'étais inscrit à des ateliers d'écriture dans un théâtre à côté de chez nous. Alors après, j'ai complètement arrêté d'écrire à partir il y a, je pense, presque 10 ans. Et là, ce texte, je l'ai écrit pour l'émission il y a quelques heures avant de commencer, quoi.
Merci beaucoup, on t'écoute.
J'ai l'impression que tout se résume à un besoin d'équilibre, être suffisamment joyeux mais pas trop, avoir suffisamment de peine sans être déprimé, suffisamment de projets sans être un rêveur déconnecté, être suffisamment amoureux mais pas trop, suffisamment indépendant, suffisamment seul, confiant, drôle, blagueur, affectueux, généreux, et à chaque fois sans excès. On dira souvent « Ah, il est trop ci, il est trop ça ». On est dur, sévère, obtus, avec tous les comportements qui sortent du calme plat de l'équilibre. Funambule sur un câble invisible, quand cela tangue, il faut revenir au centre. Il faut bien aimer, bien échouer, bien réussir, bien stresser, bien s'engueuler, bien vivre, et tout à la fois. Et sinon, on culpabilise. Alors libérons-nous, acceptons de vaciller, d'osciller, d'être excessif ou trop mesuré, d'être humain et de s'aimer.
Merci beaucoup Mathias pour ton partage de texte. On va passer à ton choix d'œuvre phare, c'est-à-dire parmi littérature, musique, cinéma, série, théâtre, tout ce que tu veux, tu as dû choisir une œuvre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Alors moi j'ai choisi un livre de Milan Kundera qui s'appelle La plaisanterie, un livre qu'il a écrit en 1967, où en fait c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ludwig Jan, qui est un étudiant à la faculté au départ à Prague, et qui au départ est dans les groupes communistes, de jeunes communistes, étudiants, etc., qui veut réformer le pays, sauver le pays des méchants bourgeois qui l'ont composé par le passé, si je caricature un peu. En fait, j'aime bien parce que la plaisanterie, c'est l'histoire de ce gars-là qui fait une blague à une amoureuse de l'époque. Donc, il est en couple avec une fille qui caractérise un peu comme simplet ou un peu plus naïve, etc. Et lui, voilà, le personnage, il se croit vraiment plus intelligent que tout le monde. Donc, quand il lui envoie une lettre d'amour, à la fin, il signe en disant « L'optimisme et l'opium du genre humain, l'esprit sain pue la connerie, vive Trotsky !» Sachant que Trotsky, c'était l'ennemi public numéro un de tous les régimes de l'Est à l'époque. Et donc du coup, en fait, cette lettre, elle est interceptée soit par la police, soit je sais plus exactement par qui. Et en fait, il l'envoie dans un camp d'internement pour ennemis de la Révolution, ennemis politiques, où il va passer des années, des années, des années dans des mines à creuser des trous. Et juste pour une blague, en fait. Et voilà. Donc
pour la plaisanterie qui est le titre.
Pour la plaisanterie, ouais. En fait, il avait cette blague et sa vie, elle est complètement chamboulée. Et il va rester 10 ou 15 ans, je sais pas, dans un trou. Ce qui m'a bien plu, c'est que moi aussi, j'ai tendance parfois à rien prendre au sérieux, en tout cas à faire semblant de rien prendre au sérieux, à faire des blagues. Et en fait, des fois, je ne m'en rends pas compte, mais ça peut avoir une portée qui est beaucoup plus forte que ce que j'espérais. En fait, c'est un passage qui m'a marqué où il recroise dans une fête de village la personne qu'il a fait envoyer en prison, et cette personne-là, elle veut s'excuser. Et sauf que du coup, il écrit une page rapide, hein, c'est « Que lui dirais-je ? Que lui répondrais-je ? Comment lui expliquer que je ne peux pas me réconcilier avec lui ? Comment lui expliquer qu'en le faisant, je romprais sur le coup mon équilibre intérieur ? Comment lui expliquer que sur l'une des extrémités du fléau de ma balance intérieure serait alors brusquement projetée en l'air ? Comment lui expliquer que ma haine envers lui contrebalance le poids du mal qui est tombé sur ma jeunesse ? Comment lui expliquer qu'il incarne ce mal ? Comment lui expliquer que j'ai besoin de le haïr ? Et donc, en fait, tu vois, il avait besoin, en fait, pour être structuré et bien, ce personnage-là, il avait besoin d'haïr quelqu'un. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le livre, dans la deuxième partie. C'est le côté, la recherche constante de l'équilibre. Et lui, en fait, il la caractérise par la haine qu'il a pour un être humain envers tout le mal qu'on lui a fait par le passé, quoi.
Ce que je comprends, en fait, c'est que l'art, pour toi, en tout cas, là, ce qu'on a dit avec la musique, la sculpture et la littérature, c'est quand même un moyen d'explorer les émotions et de faire effet miroir avec toi ce que tu peux ressentir.
Oui, exactement. Et par exemple, quand je vais dans des expositions où c'est des œuvres abstraites, ben, je regarde les tableaux et en fait, je me sens complètement incapable de regarder un tableau abstrait sans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et vu que je ne comprends pas, j'ai du mal à apprécier. Tandis que si je vois une émotion humaine où, voilà, ben, vu que je vous remets dans ma mécanique intérieure, ben, j'apprécie le truc, tu vois.
Après, il y a la conscience et l'inconscience. Il y a des fois, tu regardes une œuvre abstraite, consciemment, il n'y a rien qui passe. Inconsciemment, il y a peut-être des choses et toi, tu ne le sais pas.
Ouais, mais j'arrive pas à les capter, ouais.
Mais on ne peut pas tout capter,
ouais, ça m'échappe.
Merci beaucoup. On passe à la dernière étape qui est ta bribe de phrase.
Hey, listen. You're too crazy, nigga. You better stop, man. You better stop. Let me tell you something.
Comme chaque mois, Mathias, l'émission, elle se termine avec une bribe de phrase que tu as entendue dans ton entourage, l'espace public. En tout cas, c'est une phrase comme ça, attrapée au vol, qui t'a peut-être marqué ou fait rire ou choqué pour une raison particulière. Est-ce qu'avant de nous la révéler, tu peux nous la contextualiser,
cette phrase ? En fait, on était en vacances avec des amis et on parlait des gens qui faisaient... Enfin, un groupe d'amis parlait des rêves et des cauchemars. Et ils disaient que depuis qu'ils étaient en vacances, ils faisaient beaucoup plus de rêves. Ils se souvenaient de leurs rêves. Tandis que dans leur vie active, ils n'en ont pas beaucoup. Et donc, il y a une des personnes qui a dit, ça m'a marqué, « Ouais, à Paris, je n'arrive pas beaucoup. »
Ça t'a marqué parce que, écho à toi encore une fois ou pas ?
Non, mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils rêvent pas à Paris ? Enfin, en fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait un peu un côté aussi où, à chaque fois qu'on est à Paris ou qu'on bosse, etc., on a tendance à voir une situation... ça comme une situation un peu négative où on est dans une machine à laver et puis on n'arrive pas trop à avoir des sentiments, des rêves et autres parce qu'on fait que bosser.
C'est le fameux métro boulot dodo.
On vit un peu à 100 à l'heure.
Mais dodo sans rêve.
Je pense pas que ça soit si horrible et en fait on dépeint ça comme un tableau un petit peu sombre d'une vie sans rêve quoi. Alors que je pense que c'est pas le cas parce qu'on est quand même dans une des plus belles villes du monde. On a un métier généralement qui nous convient, etc. Donc.
Et toi tu rêves beaucoup à Paris ou pas ?
Oui, ça va. Enfin, je rêve pas beaucoup de manière générale, j'ai remarqué. Mais insomniaque, je ne fais plus de rêves. Non, mais je rêve pas beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qui me... Je rêve pas plus en vacances qu'à Paris, quoi.
Bon, ben merci beaucoup, Mathias, pour ton passage dans l'émission. On se retrouve avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée le mardi 30 avril à 18h sur Radio Campus Paris.